おかしい、おかしい。
19h à Kinshasa, le magazine politique Dialogue entre Congolais. C'est l'équipe La Mondo est à la présentation.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quand la présentation du projet de budget 2007 au Parlement, c'est le thème du dialogue entre Congolais de ce soir. Ce budget permettra-t-il de réaliser les attentes de la population? Où et comment le gouvernement Gizenga va-t-il trouver l'argent pour financer ce budget? Des questions qui vont alimenter les débats de tout à l'heure. Le budget 2007 intéresse manifestement les auditeurs de Radio Okapi qui ont commencé à réagir. Romozama Weji de Kananga dit: ce budget tient-il compte des problèmes majeurs des Congolais ou a-t-il tout simplement été élaboré dans le but de plaire? Robert Baomé de Bukavu, le budget 2007 tiendra-t-il compte des Mboudis pour répondre aux attentes des fonctionnaires et agents de l'État? Adlar Daruwara, en province orientale, ce budget tant attendu permettra-t-il de rendre la scolarisation gratuite? Alphonse Akinchata pose la question suivante: qu'est-ce que le budget 2007 a prévu pour la justice, en particulier les magistrats? Pour répondre à toutes ces questions, trois invités sont présents dans nos studios. Son Excellence Monsieur Adolphe Mojito, ministre du Budget, il est au studio. Monsieur Didier Mumengi, ministre honoraire et auteur du livre intitulé « Sortie de la pauvreté », il est au studio également. Madame Agnès Kamamia, vice-présidente de la société civile du Sud Kivu, elle est au téléphone depuis Bukavu. Bonsoir à nos invités et bienvenue à cette émission.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-899-222.
Les prévisions budgétaires pour l'année 2007 représentent moins de 2 milliards de dollars américains, montant presque équivalent à celui du budget élaboré en 2006 par le gouvernement de transition. Quelle comparaison faire entre le budget 2007 et le budget 2006 au moment où le gouvernement Gizenga a besoin de beaucoup de moyens pour réaliser son programme? Claude Tianzalokangu s'y est penché.
Le budget 2007 avoisinerait un montant de 1,850 milliards de dollars américains. Cette information a été livrée à la presse le 16 avril dernier à Kinshasa par le vice-ministre au budget Célestin Mbouyi. Ce montant représente le budget en recettes et dépenses. Les recettes courantes pour 2007 sont de l'ordre de 660 milliards de francs congolais, soit plus ou moins 1,2 milliards de dollars américains. Avant de faire toute comparaison par rapport au budget 2006, il faut d'abord apporter quelques précisions. Selon des sources sûres que nous avons contactées, les prévisions budgétaires pour 2006 étaient de l'ordre de 2,2 milliards de dollars américains. Mais dans la réalité, le gouvernement congolais n'a encaissé que plus ou moins 1,5 milliards de dollars, soit une diminution de 660 millions de dollars par rapport au budget qui était prévu. L'une des raisons, renseigne nos sources, c'est que les bailleurs de fonds n'ont pas décaissé toute l'aide financière prévue pour cause l'échec du programme économique que le gouvernement congolais avait conclu avec les institutions financières internationales. Quant aux recettes perçues en 2006, elles étaient de l'ordre de plus ou moins 800 millions de dollars américains. Comparé au budget 2006, le budget 2007 connaît une hausse de près de 310 millions de dollars américains par rapport à 2006, soit une augmentation de plus ou moins 17%. Quant aux recettes prévues pour 2007, elles augmentent de 400 millions de dollars par rapport à 2006, soit une augmentation de près de 33%. Si avec le budget 2006, le gouvernement de transition n'a pas suffisamment amélioré le vécu quotidien des Congolais, comment le gouvernement Gizenga pourra-t-il atteindre ses objectifs avec un budget de moins de 2 milliards de dollars en 2007?
Merci Claude Tianzalokangu. D'entre Dieu, c'est à vous, Excellence, Monsieur Adolphe Mojito, ministre du Budget, que je m'en vais poser la première question. C'est vrai que ce budget n'est pas encore présenté au Parlement, il n'est pas encore adopté, donc ce qui veut dire que ce budget ne va pas être, étalé en long et en large ici à Radio Okapi. Priorité donc aux honorables députés. Mais ici, on va avoir quelques esquisses. Où en sommes-nous avec le projet de budget 2007? Est-il prêt? Il est évalué à combien? Pourquoi ça traîne à être présenté au Parlement?
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je voudrais apporter un petit correctif. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est pas bon de communiquer les chiffres sur le budget pour autant que l'esquisse n'est pas bouclée, n'est pas adoptée par le gouvernement, et donc il n'y a que des chiffres officiels, tout au moins au niveau du gouvernement, à travers le projet, avant de les présenter au Parlement. C'est peut-être à ce niveau-là où, après adoption, nous pourrions parler des chiffres avec beaucoup d'autorité.
Il y a déjà le ministre, un chiffre qui était avancé.
Voilà, ce chiffre, ce n'est peut-être pas bon d'annoncer des chiffres qui n'ont pas encore été adoptés par l'institution gouvernementale. Enfin, je peux donner une esquisse, à savoir que le budget, la préfiguration aujourd'hui, c'est 2,150 milliards de dollars.
2,150 milliards.
Et là-dedans, il y a 1,2 milliards de dollars qui correspond aux ressources propres du gouvernement. Et la différence, c'est 850 millions de dollars qui correspond aux apports extérieurs ainsi qu'aux ressources PPT. Mais en termes comparatifs par rapport au budget 2006, globalement, l'accroissement est autour des 14-15% des taux d'accroissement. Mais en ce qui concerne les ressources propres de l'État, la performance est plus ou moins de 35%, c'est-à-dire que le gouvernement actuel fera un peu mieux que celui de l'année passée, bien que c'est un budget que nous prenons comme un train qui est déjà en marche, et donc c'est une relative performance. Nous aurions pu atteindre le 2 milliards 4 que nous avons promis à l'Assemblée lors du programme du gouvernement, mais malheureusement, les manques à gagner des 350 millions de dollars que nous n'avons pas pu mobiliser sur le fait que le gouvernement ne peut pas bénéficier des appuis budgétaires de la communauté internationale, étant donné qu'il n'est pas en contrat avec les FMI, et du fait, comme vous le savez, de la suspension ou de la rupture du programme de l'année passée au mois de mars. Je pense que c'est un héritage de l'ancien pouvoir qui vient affaiblir nos ressources.
Non, c'est vrai que vous allez manquer, le gouvernement congolais va manquer cet argent-là, mais je crois que sur le plan interne.
Oui, provisoirement, dans le cadre de l'esquisse actuelle, parce qu'il est prévu de nos concertations avec les FMI, que nous puissions faire un budget aménagé au mois de septembre, c'est une possibilité qui permettra non seulement d'intégrer les appuis budgétaires, parce qu'au moins à partir de septembre, nous aurons déjà commencé les discussions avec le bailleur des fonds ainsi que les FMI, mais aussi nous aurons la possibilité de démontrer dans les trois mois à venir que nous avons une capacité de mobilisation de recettes, lesquels pourront être traditionnellement intégrés au budget 2007.
Alors pourquoi
on n'a pas pu faire dans le cadre de ces budgets au motif que la banque, les FMI et la Banque mondiale, mais principalement les FMI, a estimé que si nous intégrons à ce stade nos performances à venir, nous risquons de ramener notre niveau de dépenses à ce niveau-là, auquel cas nous pourrions déjà commencer à dépenser dans ces proportions, alors que les recettes proprement dites qui vont relever de ces performances ne viennent commenceront à tomber que vers le dernier trimestre de l'année. Et donc, ça pourrait, dans l'entretemps, occasionner des pressions inflationnistes.
C'est clair. Merci, M. le ministre. Mais pourquoi, rapidement, ces projets de budget, s'il est déjà prêt, pourquoi ce retard enregistré?
Il est bouclé au niveau de mon ministère, en discussion au gouvernement pour les finalisations. Mais ce n'est pas ça la question. La question profonde, c'est essentiellement le fait que les processus de mise en place des institutions a fait que nous ne puissions pas. Déjà même aujourd'hui, si nous avions tout bouclé, nous avons bouclé à mon niveau, il s'agit d'une formalité au niveau du gouvernement, nous ne pourrions pas aujourd'hui présenter au Parlement ce budget, tout simplement parce qu'à ce jour, nous n'avons pas les parlements dans son entièreté. Nous n'avons que l'Assemblée nationale qui a le bureau définitif, qui a les commissions, qui en fait est de base du budget, mais ce n'est pas le cas avec le Sénat, qui n'a que le bureau provisoire, qui n'a même pas encore les commissions, parce que comme vous le savez, le budget en tant que loi doit être voté concomitamment par les deux chambres, discuté par les deux chambres séparément et harmonisé avant d'être présenté au président de la République pour la promulgation de la loi. Donc dans ces conditions-là, ce n'est pas possible, mais nous étions prêts. Mais il faut faire la rétrospective pour constater que le budget par principe, celui de 2007, aurait dû être préparé, adopté en 2006. au plus tard fin du mois de décembre, pour que le président promulgue et que dès le 1er janvier qu'on commence à l'exécuter.
Il y avait
la mise en place des institutions, comme vous le savez, n'a pas permis que ces lois possibles. Soit qu'on avait le gouvernement, on avait le parlement, mais on n'avait pas le gouvernement, etc. Donc à ce jour, nous sommes encore dans le crédit provisoire que nous sommes en train d'exécuter.
Merci, monsieur le ministre. Première réaction des autres invités. Madame Agnès Camonia, vous êtes vice-présidente de la société civile de Kivu. Vous avez suivi notre confrère Claude Tianza dans cet élément en rapport avec le budget 2006 et vous venez de suivre, monsieur le ministre. Je ne sais pas si vous avez un petit papier avec les stylos en budget, ces chiffres. Monsieur le ministre vient de nous communiquer quelques chiffres. 2,150 milliards, c'est le budget donc plus ou moins le montant du budget 2007. Alors, vous avez suivi aussi ce qu'a été le budget 2006. Votre réaction, comment vous réagissez lorsque vous essayez de comparer rapidement les deux budgets?
Merci beaucoup pour la question. Lorsque j'ai fait une petite comparaison de ce que je viens d'entendre et de ce qui a été décidé l'année dernière, je me dis nous ne sommes pas très très avancés et que le petit peuple que nous sommes risque de se retrouver dans sa misère de tous les jours parce que, bon, les chiffres parlent. Voilà ce que je pense.
Merci Madame Agnès Camonia. Monsieur Didier Moumengi, vous êtes ministre honoraire et auteur du livre intitulé « Sortir de la pauvreté ». Votre réaction?
Mais d'abord, pour que les auditeurs saisissent le sens de notre entretien, il faut que nous rappelions quelques principes. Je crois que le gouvernement gagnerait en efficacité gestionnaire et en rigueur méthodique si le ministre nous donne le calendrier budgétaire à ses jours. Le ministre a parlé des crédits provisoires. Pour avoir accès aux crédits provisoires, il faut l'autorisation du Parlement, qui est l'autorité budgétaire. En principe, au mois de juin, selon les usages, nous devions déjà, le pays devrait déjà engager des discussions pour commencer à donner les orientations majeures du projet de loi de finances pour l'année 2008. J'aurais voulu, avant que je ne continue, que les ministres nous disent aujourd'hui quel est le calendrier. Où en est-on avec le budget 2008? Où sommes-nous avec le budget 2007? Est-ce que nous allons retrouver le sens des recommandations constitutionnelles qui veut que l'exercice budgétaire commence au 1er janvier et termine au 31 décembre, avec le mois de juin comme période, comme moment charnière, parce qu'on commence la conférence budgétaire pour la nation.
Voilà, monsieur le ministre, réaction rapidement. Je veux même signaler qu'il y a parmi les réactions des auditeurs, il y a un auditeur qui est revenu sur ça pour dire avec ces retards enregistrés, cela ne va pas handicaper en fait l'élaboration du budget de 2008.
Oui, le ministre a raison. Évidemment, au mois de juin, c'est au niveau de l'administration. Le calendrier budgétaire, vu du point de vue des institutions, notamment du Parlement, du gouvernement, le Parlement, au travers de l'administration, et particulièrement l'administration du ministère du budget, c'est dans cette période qu'il vient d'indiquer. Et le gouvernement commence à élaborer son budget proprement dit en septembre. En octobre, avec la rentrée budgétaire, il doit se présenter au Parlement. Et sans qu'effectivement, cela prenne beaucoup de temps. Et se trouve, malheureusement, que nous ne sommes pas là depuis le mois de juillet dernier. Nous venons d'arriver au début du mois de mars. Nous sommes attelés depuis ce temps d'abord à négocier avec les partenaires extérieurs pour les six ensemble, et ensuite rentrer en contact avec les administrations. Et dans l'entretemps, nous avions besoin d'un budget, d'un crédit provisoire, puisque le gouvernement sortant n'avait pas pu élaborer pour les contextes, pour des raisons d'expérience politique, n'a pas pu élaborer en l'année 2006 le budget qu'il devait présenter discuter avec le Parlement vers la fin de l'année. Donc nous sommes là depuis mars, nous ne sommes pas encore au mois de juin pour les six dont il a parlé au niveau de l'administration. Je crois que c'est une question là, nous devons l'écarter. Mais maintenant, s'agissant des crédits provisoires, je viens de le dire, ce que j'ai dit est valable et pour la loi budgétaire et pour la loi relative aux crédits provisoires. Parce que le président de la République, sur proposition du gouvernement, aurait dû demander au Parlement, ou du moins le gouvernement aurait pu se présenter au Parlement pour solliciter pour 3 mois, 4 mois le crédit provisoire. Il se trouve que le Parlement n'était pas en son entièreté, parce que la Constitution dit que le budget est sanctionné après discussion de deux institutions, donc le Sénat et l'Assemblée, qui doivent voter, harmoniser avant de présenter au président de la République. Donc, qu'il s'agit du budget proprement dit que de la loi relative au crédit provisoire, la procédure est la même. Donc, on ne peut pas nous reprocher de n'avoir pas, de ne pas disposer d'une loi sanctionnant les crédits provisoires. Mais puisqu'il y avait cette difficulté du point de vue constitutionnel et institutionnel, nous avons, et la Constitution donne au président de la République des compétences au nom de la continuité de l'État de prendre des dispositions. C'est ainsi qu'il a instruit le gouvernement à travers le ministre des Finances et du Budget pour la liquidation et l'ordonnancement des dépenses en attendant qu'on ait un budget et une loi budgétaire proprement
dite. Il y a effectivement une disposition de la Constitution, je crois que l'article 129 de la Constitution, qui donne au président la latitude de donner au pouvoir, au gouvernement, la possibilité de mettre des dépenses au titre des crédits provisoires. Mais comment s'effectuent ces dépenses? Par ordonnance loi? Parce qu'il va falloir, pour entrer dans la régularité, lorsque les deux chambres seront en état de fonctionner, il va falloir que le Parlement ratifie ces ordonnances-lois dans la perspective d'une loi de règlement des comptes de l'État. Est-ce que le gouvernement a déjà ouvert la perspective d'une discussion en rapport avec une loi de règlement des comptes de l'État? Parce qu'il va falloir savoir comment l'État a dépensé, où il a trouvé le moyen, même si c'est des crédits provisoires non autorisés.
Oui, je crois que c'est des choses différentes. La loi des comptes, c'est une loi qui, elle, sanctionne l'exécution du budget d'il y a un mois, plutôt un an ou deux ans. Et dans les cas d'espèce, au prochain budget, et quand nous aurons au Parlement en principe, nous devions amener la loi de règlement des comptes, le projet de loi de règlement des comptes avec les observations de la Cour des comptes pour l'exercice budgétaire 2005. Et donc, mais maintenant, ça c'est autre chose. Le crédit provisoire, il est sanctionné par une loi qu'on n'a pas pu prendre au Parlement et c'est promulgué par le président Arthur pour des contraintes juridiques que je viens d'indiquer. Donc, il ne s'agit pas de cela. Donc, au Parlement, nous irons avec le projet de loi budgétaire que le Parlement va discuter. Je dis Parlement, les deux institutions. Et puis, après harmonisation, il y aura une loi budgétaire, plutôt la promulgation de la loi par le président de la République. Donc, nous n'en avons pas fait parce que le processus de mise en place des institutions n'a pas permis. Aujourd'hui, par exemple, les budgets de province doivent faire partie du budget de l'État, aussi que des crédits en faveur des entités décentralisées, c'est de la subvention, mais aussi au titre des rétrocessions. Les entités décentralisées ne disposent pas encore de ces dotations dans le cadre du budget 2007. Elles fonctionnent avec les crédits provisoires comme nous au niveau central.
Merci.
Comme je viens de le dire.
Merci. On va évoluer, hein, parce que je sais que nos auditeurs nous attendent ailleurs, hein, un peu dans la comparaison des budgets. Les projets du budget 2007 du gouvernement congolais évalués à 2 milliards 150 millions de dollars, selon les chiffres, les tout derniers chiffres que M. le ministre du budget vient de nous donner, est de loin inférieur au budget de certains États voisins comme l'Angola et le Congo-Brazzaville. Pourtant, la RDC compte une population supérieure à celle de ses voisins et les besoins actuels du Congo-Kinshasa dépassent en proportion ceux de ces derniers, dit Roger Nyampala.
3,5 milliards de dollars américains, c'est le budget 2007 du gouvernement du Congo-Brazzaville, avec une population 8 fois inférieure à celle de la République démocratique du Congo. Ce budget est financé à 75% par les recettes provenant du secteur pétrolier. Comparativement au projet de budget 2007 de la RDC, tel que annoncé par le vice-ministre du budget le 16 avril dernier à l'issue d'une réunion tenue autour du Premier ministre, ce budget avoisinerait un montant de 1,850 milliard de dollars américains pour l'exercice 2007. Quand nous prenons le budget de l'Angola, Angola qui se chiffre autour de 5 milliards de dollars américains, soit près de 2,5 fois l'enveloppe budgétaire que compte proposer le gouvernement congolais à la chambre basse du Parlement, alors que la population et les besoins de la RDC pour sa reconstruction nécessitent la mobilisation de moyens conséquents, bien que ce projet de budget ne puisse concerner que l'année 2007. Cette somme suffira-t-elle pour réhabiliter les routes, construire les écoles, régler les salaires des enseignants, régler les salaires des agents de la fonction publique, bref, redresser les soucis sociaux congolais? Il se pose donc la question de savoir si ce budget permettra au gouvernement de disposer des moyens de sa politique.
Merci Guy Roger. 3,5 milliards de dollars, c'est le budget du Congo-Brazzaville, budget 2007 en tout cas, et 5 milliards, c'est le budget de l'Angola. Excellence Monsieur Adolfo Mosito, ministre du budget, très sincèrement, pensez-vous que les projets du budgétaire 2007 que vous comptez présenter au Parlement est réaliste, ou est-il vraiment adapté à la situation du pays qui sort de plusieurs années de conflits armés et qui doit être reconstruit presque entièrement?
Oui, le budget de l'État congolais n'est pas réaliste dans sa configuration actuelle. Il ne traduit pas la structure économique du pays, ainsi que même si les chiffres officiels de la production intérieure brute par rapport à ces chiffres-là, le budget peut être plus ou moins proche de la réalité en termes de pression fiscale. Mais les statistiques déjà pour la production ne rendent pas compte de la réalité, étant donné malheureusement le caractère informel de notre économie et la faiblesse de l'administration dans la prise en charge des agrégats macroéconomiques. Mais en même temps, je voudrais dire que le budget en lui-même ne peut pas couvrir le besoin, tout au moins le budget 2007, et la prise en charge des attentes de la population se fera progressivement. Mais en même temps, j'insiste pour dire que ce budget ne correspond pas à la taille de l'État. Tout à l'heure, on a parlé du budget de l'Angola. Je ne dis que ce n'est pas 5 milliards, c'est 10 milliards. De dollars. Et ça va passer à 30 milliards bientôt à cause de la manne pétrolière. Notre pétrole, c'est un mystère. Tout ça, c'est l'héritage des anciens régimes. Et de plus en plus, avec les élections, avec la souveraineté du peuple, je pense que nous verrons beaucoup plus clair et cela doit se faire progressivement de manière juridique.
Alors, donc, j'ai dit, comme au Brazzaville, mais on a d'autres richesses en tout cas.
On a d'autres richesses.
On va en parler
dans une émission. Ça, évidemment, c'est pas au cours d'un exercice budgétaire que vous allez modifier l'administration, l'efficacité, si vous voulez, vous allez mettre en place toutes les capacités, les renforcements des capacités. Je venais de le dire, c'est un budget que nous prenons en cours de marche, comme un train que vous prenez en cours de marche, comme vous le savez. Il a déjà été commencé à être exécuté en janvier, en février par le gouvernement partant, et nous en sommes encore au crédit provisoire. Maintenant, en termes d'ambition pour un gouvernement qui arrive, qui n'a pas encore la maîtrise de l'administration, qui n'a pas encore pris ses propres lois, qui n'a pas encore commencé à mettre en œuvre ses réformes, il est normal que la différence entre l'ancien budget et celui qui vient à peine de commencer, qu'il n'y ait pas un écart important. C'est dans la durée que nous pouvons améliorer. Mais encore une fois, c'est vrai, c'est trop peu. J'irais même plus loin pour dire, par exemple, pour nos provinces, prenez le cas de Kinshasa. C'est environ 50 millions de dollars de budget pour la ville de Kinshasa, dont moins de la moitié entre dans les caisses de la ville, avec une population d'environ 8 millions d'habitants. Alors la population, oui, déjà, la population est prise en charge par un budget qui approche de 4 milliards de dollars. C'est déjà un problème qui montre bien que notre administration de la ville ne peut pas prendre en charge ses fonctions régaliennes, ne peut pas financer le social, la voirie, l'assainissement, la santé, l'école, etc. Comparativement, puisque vous parlez de l'Angola, Luanda, une ville dont la population est la moitié de celle de Kinshasa, environ 4 millions de dollars. C'est un budget de plus ou moins 400 millions de dollars. Et il est bon que désormais, de plus en plus, le Congolais rentre dans la culture des chiffres pour comprendre à quoi nous pouvons nous attendre, jusqu'à quelle limite nos
espoirs. Ils vont avoir beaucoup de chiffres en tête, mais dans la réalité, il y a...
Non, déjà, les chiffres en eux-mêmes montrent la réalité de notre économie telle que nous l'héritons, et donc la réalité de nos chiffres budgétaires.
L'économie qui doit être revue.
Absolument.
Corrigée par le gouvernement.
Oui, absolument. C'est pourquoi nous disons, nous venons d'arriver, nous n'avons que 2 mois. Nous n'avons pas encore mis en place nos réformes qui supposent des lois que doit prendre le Parlement. Nous n'avons pas encore, si vous voulez, assainir l'administration parce qu'il y a, il y a beaucoup d'effectifs là-dedans. Si nous réduisons ces administrations, mais ça suppose un contrôle sur le terrain. Peut-être que nous pourrions dégager des économies pour améliorer le salaire de ceux qui réellement travaillent. Mais c'est un travail de moyen et long terme pour corriger une situation dont nous héritons et qui est une situation de plus de 40 ans.
Madame Agnès Kamonya, vice-présidente de la société civile du Sud Kivu. Allô, madame Agnès?
Je vous écoute, s'il vous plaît.
Oui, vous avez suivi les explications de monsieur le ministre sur les montants du budget et l'incapacité pour ce montant de pouvoir couvrir les besoins de la population.
Attendez, il faut préciser, je ne dis pas que c'est... Nous allons commencer progressivement et c'est dans la durée, ce mandat des 5 ans, avec les autres mandats, d'autres gouvernements qui pourraient être les nôtres ou des adversaires politiques. C'est dans les longs termes qu'on peut reconstruire, qu'on peut... Et vous voulez corriger ou penser le plaid de plusieurs décennies de crise et de prédation.
Merci pour cette précision. Madame Agnès Kamanian.
Oui.
Allez-y, vous réagissez à ce que le ministre vient de dire.
Ah, d'accord. Sans contredire son excellence, le ministre, ce que je peux dire, moi, ici, chez nous, chez vous, c'est que toutes ces idées-là qui viennent d'être avancées sont réalistes, mais seulement... dans la vie de la population, ici, ce que nous sommes en train de vivre sur place, ça reste quand même un problème. Parce que on s'attendait à ce que la mise en place de ce budget soit plus ou moins accélérée. Évidemment, nous ne maîtrisons pas les paramètres qui font que ça prenne en longueur. Avec les explications que nous venons d'entendre, nous essayons de nous remettre à niveau. Mais... pour nous autres, ça reste quand même un problème, surtout que nous sommes une région, je dirais, sinistrée, avec tout ce que nous sommes en train de vivre de ce côté. On avait pensé qu'avec la mise en place des nouvelles institutions, les choses iraient bien, les espoirs commençaient déjà à renaître. Mais maintenant, déjà au lendemain de la mise en place des nouvelles institutions, on a reconnu, on a vu, on a vécu la résurgence de l'insécurité dans nos territoires, Kabare, Kanyola, Walungu, au plateau, ainsi de suite, où nous voyons les gens mourir, on les tue, on viole, on vole. Je pense que avec ce que les ministres vont faire, ce que le Parlement va faire, peut-être que ça va nous redonner un peu du souffle de ce côté-là.
Merci Madame Agnès, Monsieur Didier Moumengui, ministre honoraire, auteur du livre intitulé Sortir de la pauvreté. Après les élections, la population attend un signal fort de la part du gouvernement, comme Madame Agnès vient de dire. Beaucoup de besoins de la part de la population qui attend que ces besoins puissent être, ces problèmes puissent être solutionnés. Vous venez de suivre, Monsieur le ministre, du budget.
Oui, je viens de suivre, Monsieur le ministre. J'ai failli verser des larmes. Le ministre est sincère. Il est honnête. Il a fait son aveu d'impuissance. Mais il y a pire. Le ministre nous a laissé croire que cela peut évoluer. Non. Si nous prenons le programme du gouvernement, dans la rubrique programmation du financement, le programme du gouvernement annonce les ressources de l'État sur 5 ans. Et on fixe les niveaux prévisionnels des efforts budgétaires de la nation sur 5 ans. C'est 14,314 milliards de dollars sur 5 ans. Ça, c'est le niveau prévisionnel des ressources de l'État. C'est dans le programme du gouvernement. 14 milliards, c'est en moyenne quelque chose comme, comme il a dit le ministre tout à l'heure, 2,5 milliards de dollars par an. Savez-vous que 2,5 milliards par an, ça revient à 4 dollars par Congolais et par an. 4 dollars par Congolais et par an pour sortir de la pauvreté sur 5 ans. Il n'y a pas d'espoir, tout est déjà ficelé, même les allocations. Je vais prendre parce qu'on est dans la mouvance des 5 chantiers du président de la République. Nous allons prendre un des grands chantiers, les infrastructures. Dans le programme du gouvernement, sur 5 ans, déjà on fixe le pourcentage d'allocation des ressources pour les secteurs vitaux de la vie de la nation, notamment les infrastructures. On dit entre 2007 et 2008, ça va naviguer entre 15 et 18% du budget en 2007 et 16 et 13% en 2008. 15, pour une moyenne de 15% du budget, cela revient à 400 millions de dollars. 400 millions de dollars pour investir dans les infrastructures. C'est ridicule. C'est que dans 4 ans, on ne pourra pas réparer nos ports, réparer nos ponts, réfectionner toutes les routes de la République qui sont criblées des nids de poules. On ne pourra rien faire. Donc il n'y a pas d'espoir. Ça va continuer ainsi sur 5 ans. C'est écrit dans le programme du gouvernement. Prenons un autre secteur vital. Madame, qui vous vient de le faire savoir, la santé. La santé des Congolais. La santé, dans les prévisions budgétaires fixées dans le programme du gouvernement, c'est entre 13 et 12,3% en 2007 et 12,9% en 2008. Tout cela, c'est une moyenne de 300 millions de dollars par an. Nous sommes 60 millions de Congolais. 500 000 Congolais meurent de paludisme tous les jours. Nous avons ici les taux élevés de mortalité pour l'ensemble de l'Afrique, les taux le plus élevés de mortalité pour l'ensemble de l'Afrique centrale. Alors, si l'on prend, parce que nous ne sommes pas des sous-hommes, nous prenons le budget. C'est que les États-Unis d'Amérique consacrent pour la santé des Américains par an, c'est vers 500 milliards de dollars pour les soins de santé des Américains. Nous ne sommes pas différents des Américains, nous sommes des êtres humains, nous vivons le même époque. Nous prenons les Français, par exemple. C'est très important qu'on le sache.
Oui.
Les Français dépensent environ 200 milliards de dollars pour les soins de santé des Français. Qui sommes-nous, en sachant que, même au titre de subventions agricoles, l'Union européenne consacre à chaque vache et par an 60 dollars, pendant que notre budget donne à chaque Congolais 4 dollars par personne et par an.
C'est inadmissible. Ce qu'on fait, ce budget, c'est vraiment une goutte d'eau dans la
mer. C'est un budget suicidaire.
On va parler, monsieur le ministre, je vais vous donner la parole. On va parler un peu de la possibilité que le gouvernement du Zenga a de pouvoir maximiser les recettes pour pouvoir en fait répondre à ces besoins de la population. Vous aurez la parole.
Il faut déjà sortir de cette ensorcellement de maximisation des recettes.
On va y aller.
Chaque fois qu'on parle maximisation des recettes, c'est des entreprises qui ferment, c'est des gens qui souffrent de tracasseries, des Kisangani.
On va aller.
Donne un exemple.
Okay. On va aller dans les concrets.
Des Kisangani à Kinshasa, sur 1700 km, il y a 80 points de péage.
Merci.
À chaque point de péage, 500 dollars.
Qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de ça. On va parler de ça. Où et comment le gouvernement du Zenga va-t-il trouver l'argent pour financer ce budget 2007? C'est la seconde partie de cette émission, monsieur le ministre. Selon certaines informations, le budget 2007 sera financé à hauteur de 60% par la RDC, à 40% par le bailleur de fonds, tel que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Je ne sais pas si c'est vrai. Comment le gouvernement congolais compte-t-il s'y prendre pour trouver cet argent? L'argent, le Congo Kinshasa n'en manque pas en tout cas. Quelques exemples concrets avant de vous donner la parole, monsieur le ministre. En 3 mois, les recettes de l'OFIDA, de la DGRAL, du Katanga ont plus que doublé. Au mois de février 2007, les recettes de ces deux régies financières n'atteignaient pas 4 milliards de francs congolais. En ce mois d'avril, les chiffres disponibles à la Banque centrale indiquent des recettes de l'ordre de 9,986,676,000 francs congolais. Mais les autorités de la province du Katanga et les spécialistes affirment qu'il y a lieu de mieux faire, si du moins toutes les voies de fraude sont jugulées. Paul Kaboba revient ici sur les principaux moyens qui sont utilisés au Katanga pour soustraire les deniers publics au niveau de la douane et des principales régies financières.
Pour les commerçants qui ne connaissent pas la hauteur réelle des taxes, les agents de l'État utilisent un procédé qui ressemble à un jeu d'enfant. L'agent de la DGRAD ou de la douane inverse le carbone du quittancier. Ainsi, le reçu original peut indiquer par exemple 1000 francs congolais constants, mais ce chiffre n'apparaîtra pas sous la source. Il suffit alors à cet agent de marquer le vrai montant, qui peut être par exemple 300 congolais constants, et le tour est joué. Pour ceux qui connaissent la hauteur réelle des taxes, il y a des arrangements. Quand, par exemple, une cargaison de wax importé arrive à la frontière de Kasumbalesa, le commerçant peut déclarer des vêtements usagés. En ce moment, de connivence avec l'agent, il paye les taxes relatives aux vêtements usagés qui sont relativement moins chères. Il y a aussi des contrebandiers. Ce sont des véritables gangs qui passent la marchandise sans payer un rond à l'État. Cette mafia est grandement soutenue par les unités de l'armée qui sont en faction à la frontière. À l'importation, il y a aussi beaucoup de fraudes. La quantité de marchandises et sa qualité n'est pas toujours correctement indiquée, ce qui permet aux fraudeurs de se faire de l'argent au détriment de l'État et du contribuable congolais. Quand parfois l'argent entre régulièrement dans les caisses de l'État, il y a des fonctionnaires heureux qui s'arrangent par des mécanismes compliqués et tortueux à le faire sortir des banques et à l'utiliser à leur propre fin. Les actuelles autorités qui ont mis en place des mécanismes contre la fraude avouent que le chemin est encore long avant d'arrêter ou de décourager les fraudeurs et les voleurs des deniers publics de l'État.
Merci Paul Kaboba. Rendons-nous dans les Bas-Congo. Les recettes générées par les ports internationaux des Matadi n'arrivent pas entièrement dans la caisse de l'État, selon un déclarant en douane des Matadi qui a requis l'anonymat d'après ces derniers. Sur 16 millions de dollars américains de recettes mensuelles perçues par l'OFIDA au port, environ 5 millions de dollars prennent d'autres destinations, soit plus de 35% des manques à gagner pour l'État congolais. Ce déclarant en douane a été joint au téléphone par Roger Nyampala.
Bon, je vais commencer d'abord par l'ONATRA. L'ONATRA, la recette est 1 850 000 dollars chaque semaine. Les agents font la magouille, ils ne touchent pas cet argent. Mais ils ont plutôt des combines qui leur permettent de soutirer un peu l'argent de l'État de la caisse pour mettre dans la poche. Les magouilles, c'est pas qu'au niveau des marquages, au niveau des tonnages, il y a des moments, les navires accostent. Un navire qui apporte à son bord, par exemple, 35 000 tonnes, et ils vont déclarer 20 000 tonnes, les 15 000 tonnes, et tout cela vont à la poche des agents de l'ONATRA et OCT et OFIDA. L'OFIDA fait entrer par mois 13 millions de dollars. Bon, les 13 millions de dollars, ils ne présentent pas tous. Alors, ils ont un système de brouiller le cervelle de l'ordinateur pour leur permettre de structurer de l'argent. Ça veut dire, vous amenez votre marchandise et même ils vous donnent les traces. Ils disent non, déclarer en Ngonandenge à ONG ou bien don pour les orphelins. Alors, si c'est don pour les orphelins, c'est les déclarants, les douaniers, mais lui-même, il parraine les dossiers. Alors, l'argent que vous devrez payer dans la caisse de l'État, c'était 10 000 dollars. Lui, il récupère 10 000 dollars, il vous remet 3 000, les 7 000, il met dans sa poche. Donc, vous ne payez absolument rien. C'est ce qu'ils font. Au niveau de l'OFIDA, je vous dirais tout simplement, c'est pas moins de 5 millions de dollars par mois. Alors, au niveau de l'ONATRA, on avait essayé de calculer ça par mois. C'est 1 400 000 à 1 250 000. Au niveau de l'OCC, l'OCC soutient au moins 3 millions de dollars à l'État par mois.
Monsieur le ministre, voilà des cas concrets qui prouvent à suffisance que la RDC a les possibilités d'améliorer les conditions de vie de sa population. On n'a pas cité les autres postes frontaliers tels que Kassindi, Boma, sans compter d'autres sources de financement comme les bois, les diamants, l'or, l'électricité que l'on vend ailleurs. Là aussi, la réalité est la même. Tout l'argent n'est pas versé dans les caisses de l'État. Question, comment allez-vous faire pour ramener tout cet argent dans les caisses de l'État et pour que cet argent, une fois récupéré, soit mieux utilisé?
Oui, mais déjà, l'affirmation des citoyens et des Congolais qui viennent de parler démontre, contrairement à ce que Monsieur le ministre honoraire prétendait, à savoir qu'il n'est pas possible d'améliorer, contrairement à ce qu'il a pensé que la maximisation suppose des tracasseries. Et l'autre épreuve qui montre que l'argent existe, qu'on peut faire mieux, c'est que depuis que nous sommes là, nous avons amélioré. Déjà pour le mois de mars, nous avons fait une performance en faisant 84 plus ou moins milliards, là où les autres mobilisaient que la moitié. Et nous avons dû éponger une partie du déficit, nous léguer par l'ancien régime. Et donc, c'est qu'il y a possibilité de faire mieux. Maintenant, pour revenir aux gesticulations de mon frère Momengi, qui va jusqu'à faire les comparaisons avec la France. Peut-être qu'il a vécu là-bas, mais il oublie que vraiment, il est en train de comparer les jours et la nuit. Notre pays n'en est pas encore loin. Et je sais que Momengi a été dans un des gouvernements de transition, et je voudrais bien qu'il nous dise quel a été le budget de son gouvernement de l'époque. Non, mais enfin, c'est pas ça le débat. Alors, moi, je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Et s'agissant du programme du gouvernement que nous avons défendu au Parlement, C'est vrai que nous avons parlé de 14 milliards. C'est vrai que nous avons dit que pour l'exercice 2007, nous pouvions mobiliser 2 milliards 4. Et si nous sommes en train de les faire, ni était le fait que n'étant plus un programme, nous ne pouvons pas atteindre la tranche qui revient à la communauté internationale. Mais en ce qui concerne nos performances, nous les faisons et nous avons dit que nous ferons mieux parce que là, j'ai l'impression que M. Moumengi n'a pas lu complètement, totalement le programme ou il a mal lu. Ce dont je ne croyais pas parce que c'est un brillant intellectuel. Alors donc, j'ai dit, il y a quelque chose qui lui a échappé parce que nous avons dit que les chiffres que nous présentions au Parlement étaient des chiffres que nous prenions, que nous adoptions parce que c'est des chiffres du DCRP, parce que nous-mêmes, on a accepté de travailler sur, dans ce cadre-là, mais nous disions, nous, en tant que gouvernement, une fois en place, nous allons scruter l'avenir en examinant l'assiette fiscale pour faire mieux, pour prévoir avant même qu'on en soit là, nous venons de faire mieux, on vient de le dire. Donc, nous disons, il y a moyen de faire mieux. Autre chose que M. Moumengi n'a pas perçu, vous allez me laisser la parole parce qu'il a beaucoup parlé. Autre chose que M. Moumengi n'a pas lu ou n'a pas compris dans le texte, c'est que nous avons dit qu'on n'allait pas construire les Congo qu'avec les ressources publiques de l'État, qu'elles soient d'origine nationale ou étrangère. Nous avons dit qu'on allait amorcer des réformes, notamment des réformes de transformation des entreprises publiques dans le cadre d'une option de libéralisation de l'économie et que nous allions mettre fin au monopole de l'État dans les secteurs qui rentrent principalement dans les quatre chantiers du président de la République, à savoir l'eau, l'électricité. Il ne s'agit pas de privatiser, il s'agit d'ouvrir, il s'agit d'abord de mettre fin au monopole pour obtenir que le privé qui veut venir dans la production de l'eau. Il n'est pas normal que ces Congo ne soient la production, la distribution, les transports d'abord, il y a la distribution de l'eau et de l'électricité ne relève que de deux entreprises, dont l'une pour l'eau, l'autre pour l'électricité, qui sont des monstres en faillite et qui sont les seuls à déterminer le destin des Congolais dans ce secteur. Nous disons, on libéralise le marché, les privés qui veulent venir, qui ont de moyens, ils financent la production de l'eau dans la province dont ils voudront, ou et en même temps l'État pourra redimensionner ses actuelles entreprises. En disant, par exemple, que SNEL soit redimensionné, on pourrait avoir une grande entreprise de production d'électricité, Yinga, on peut en faire une entreprise, Kinshasa pourrait avoir son entreprise de distribution, même deux de distribution de l'eau, qui achèterait de l'eau à Yinga, qui serait une autre entreprise en amont, nous pourrions le faire dans le banc de et c'est là que j'ai fini par là, à travers les acquis patrimoniaux actuels, c'est-à-dire les grandes machines, les stations qui existent actuellement, autour desquelles vous viendront se greffer des capitaux privés ou des capitaux publics d'autres États pour qu'on crée des nouvelles sociétés.
Bien compris.
Voilà.
Juste quelques secondes, avant que je ne donne la parole à M. Didier Moumengi, je reviens à ma petite question. On a eu des cas concrets. L'argent qui s'évapore, le maximum d'ailleurs, apparemment c'est le peu qui revient à l'État. Comment vous allez faire pour pouvoir récupérer tout cet argent qui va dans les poches des particuliers?
Là, dans le programme, cela est dit. Et je ne vais pas vous dire quelle est la stratégie actuelle, c'est des choses qui allaient du gouvernement à l'infra, les options levées, parce que nous ne voulions pas faire la chasse aux sorcières. Les choses sérieuses se font sérieusement. C'est la bonne gouvernance. C'est l'audit. C'est la sanction. Sanction positive, sanction négative. C'est la stratégie du gouvernement. Nous sommes en train de préparer tous ces chantiers et nous allons les mettre en œuvre bientôt. Sachez que nous sommes là il y a qu'un mois, plutôt un mois et demi, deux mois. Et donc, maintenant, comme les Congolais le savent, parce que nous sommes là il y a deux mois, vous voyez comment nous faisons des performances sur le plan de la récit, sans avoir commencé à sanctionner, sans avoir commencé à auditer.
Monsieur le ministre, merci. Monsieur Didier Moumengi.
Monsieur le ministre, merci. J'ai peut-être mal lu le programme du gouvernement, mais je suis sûr que vous m'avez mal écouté. Je parlais des niveaux prévisionnels, donc je parlais des prévisions. Je n'ai pas parlé du niveau de budget arrêté, de prévision. Donc, on a utilisé le même langage, mais ce n'est plus le temps de chamaillerie. Notre pays est dans une situation apocalyptique. C'est le moment de bien s'écouter et de coaliser nos forces, nos énergies, pour que, de part et d'autre, celui qui a la machine du gouvernement sache écouter pour aussi trouver d'autres gisements de moyens pour faire sortir notre pays de ce tracas. Alors, le budget, notre ami l'a dit, 60% financé par l'extérieur. Je ne comprends
pas le gouvernement congolais.
Non, c'est encore le gouvernement congolais.
60% par le gouvernement et 40% par l'extérieur.
Ça correspond à 1 milliard de 5 millions.
La communauté
internationale. Sur 15 ans, les chiffres mis dans le programme, je vous certifie que j'ai bien lu, c'est 14,314 milliards sur 5 ans.
Vous avez raison, monsieur Moumengi. J'ai dit ceci. 2 milliards pour 2005, 2 milliards 4 et 3 milliards pour les 4 années consécutives.
Quel pourcentage du soutien extérieur?
Non, j'ai dit dans les 2 milliards, 50% communauté internationale, 50% Congo.
Très bien.
Non. Maintenant, s'il vous plaît, maintenant nous venons de faire une préfiguration. Ça, c'était les programmes qui avaient projeté globalement. Maintenant, nous avons un budget qui prévoit le même 2 milliards 400, malheureusement, à la communauté internationale.
Monsieur le ministre, écoutez-moi, je suis vraiment une contribution et non une contradiction.
Je vous en prie.
C'est une contribution parce que je constate que bien que pour cette année 2007, l'encours de la dette extérieure et son exercice va représenter 6,9% des exportations.
C'est sur cette note que nous allons.
Et
je vous présente vraiment mes excuses également. Excuses aux auditeurs.
Vous nous invitez, vous ne voulez pas qu'on s'exprime, qu'on éclaire les auditeurs.
Je vous ai donné la parole, vous avez parlé, M. Moumengi, il est temps, nous devons.
On a même pas abordé le chapitre de solutions, parce que moi je suis venu avec des idées pour contribuer.
Si on voulait bien, on revient sur ça la semaine prochaine. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Nadine Poula qui l'a réalisé avec le concours de toute l'équipe DEC. Merci à nos invités et à nos auditeurs pour leur participation active. Bonsoir à chez vous.